Merci à vous, Michael Ponge, 10h10 à Paris.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous lancerons le débat sur les propositions de sortie de crise au Burkina Faso. On vous en parle depuis hier soir. La médiation ouest-africaine a donc détaillé son plan censé ramener la paix. Elle propose notamment de remettre en selle le président Kafondo, renversé par le coup d'État mercredi. En échange, les putschistes bénéficieront d'une loi d'amnistie. Le texte prévoit également des élections au plus tard le 22 novembre avec, et c'est important, des candidats pro-Compo. Ces derniers, je vous le rappelle, avaient été exclus du processus électoral. En tout cas, toutes ces propositions sont loin de faire l'unanimité. Certains y voient même une victoire pour les putschistes, pour les militaires du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Alors, se dirige-t-on malgré tout vers une sortie de crise au Burkina Faso? Que pensez-vous de ce projet d'accord? Doit-il être adopté demain par les chefs d'État ouest-africains lors du sommet extraordinaire qui se tiendra au Nigeria? 33 9 693 693 70. Toutes vos réactions, vos commentaires, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et vous continuez évidemment à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Des centaines de réactions reçues ces dernières heures. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes d'RFI. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter, pour mieux comprendre les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, eh bien vous nous appelez, vous êtes les bienvenus. Et c'est ce qu'a fait Jean-Paul, qui est en ligne d'Abidjan. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous nous appelez donc de Côte d'Ivoire et vous avez des questions sur les tensions autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
Oui, exactement Juan. J'ai des préoccupations. Et ma première préoccupation était de savoir quelles sont les raisons de ces affrontements entre ces deux communautés. Et la seconde, c'était de savoir exactement à laquelle de ces deux communautés juives ou palestiniennes appartient l'esplanade des mosquées, ou alors est-ce que cette esplanade est couverte par les deux communautés?
Ouais, l'esplanade des mosquées qui a été le théâtre de violence, effectivement, la semaine dernière. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Jérusalem. Alors pour comprendre pourquoi ce lieu cristallise autant de tensions, il faut rappeler tout de même que cet endroit est à la fois le troisième lieu saint de l'islam et le site le plus sacré pour les juifs.
Oui, il faut dire que effectivement. J'ai un petit problème de retour, c'est-à-dire que j'entends là toute la technique dans les oreilles, donc je n'entends pas Juan. Pour répondre à la première question de l'auditeur que j'ai en revanche entendu, les altercations entre les jeunes palestiniens et les forces de l'ordre israéliennes sont dues à des visites fréquentes et à un afflux de visiteurs juifs sur l'esplanade des mosquées, visites renforcées à l'occasion des fêtes du Nouvel An juif, parce que l'esplanade est non seulement un lieu saint pour les musulmans, mais également pour les juifs. Ce qu'il faut rappeler, ce qu'il y a une règle, hein, la règle du statu quo qui date de 1967. Les juifs ont le droit d'aller visiter l'esplanade, mais pas d'y prier. Ils prient au mur des lamentations, tandis que les musulmans prient sur l'esplanade. Le problème, c'est que les visiteurs juifs qui viennent ne sont pas de simples touristes, mais des personnes très religieuses qui ont souvent l'intention de prier. Et parmi elles se trouvent des extrémistes notoires qui aimeraient non seulement instaurer des heures de prière pour les juifs sur l'esplanade, mais carrément s'approprier le lieu pour y construire un nouveau temple. Tout cela provoque évidemment la colère des Palestiniens et des musulmans en général. Ces visites sont régulières toute l'année, mais elles sont beaucoup plus importantes lors des fêtes juives qui durent tout le mois de septembre.
Oui, cette semaine qui commence risque également d'être source de tensions. Le Yom Kippour est prévu cette semaine pour les juifs, et puis une autre grande fête pour les musulmans va coïncider avec le Yom Kippour, c'est la fête de l'Aïd El-Adha. Il faut dire tout de même, Muriel Paradon, qu'en Israël, de plus en plus de juifs pratiquants vivent ce statu quo dont vous parliez à l'instant comme une véritable injustice.
Oui, en fait, ce sont plutôt une petite partie des juifs, mais qui sont très extrémistes et qui prennent de plus en plus d'ampleur. On les appelle les messianiques. C'est ceux qui aimeraient effectivement voir un nouveau temple érigé sur ce qu'ils appellent le nouveau temple, qui est en réalité l'esplanade des mosquées. Et ce qui est important de noter, c'est qu'ils sont soutenus par les autorités israéliennes. Même si Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, dit qu'il veut maintenir le statu quo, en fait, il y a des ministres dans son gouvernement, un très connu qui s'appelle Uri Ariel, qui lui-même vient sur l'esplanade des mosquées provoquer les Palestiniens et qui dit clairement, moi j'aimerais instaurer des heures de prière pour les Juifs. Et effectivement, cet extrémisme, nationalisme religieux prend de plus en plus d'ampleur.
Ouais. Esplanade des mosquées pour les musulmans, mont du temple pour les Juifs. Jean-Paul nous demandait à qui appartient ce site.
Alors le lieu appartient aux musulmans, c'est la Jordanie qui est gardienne de l'esplanade des mosquées, administrée au quotidien par une fondation musulmane qui s'appelle le Waqf. Seulement les accès de l'esplanade, les différentes portes qui permettent d'y entrer sont contrôlés par les Israéliens, par la police israélienne. Pourquoi ? Parce que nous sommes à Jérusalem-Est, territoire palestinien occupé par Israël et que les Palestiniens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs la police israélienne peut restreindre à tout moment les accès à l'esplanade pour les musulmans, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, lors des fêtes juives. C'est ce qui s'est passé aussi vendredi, jour de la grande prière pour les musulmans. L'esplanade était interdite aux hommes de moins de 40 ans. La police fait souvent cela lorsqu'il y a des tensions, mais cela crée encore plus de colère, plus de tensions et des affrontements comme il y en a eu vendredi dernier dans plusieurs quartiers de Jérusalem-Est.
Effectivement. Jean-Paul, vous avez une autre question, une dernière question.
Oui, tout à fait. Juan, ma dernière question est de savoir, vu l'importance que révèle l'esplanade des mosquées pour la communauté palestinienne, quelle est la réaction des autres pays musulmans face à ces affrontements?
Alors, Muriel Paradon, est-ce que les pays musulmans de la région ont réagi aux derniers événements?
Oui, bien sûr, très très rapidement. L'Égypte a condamné une dangereuse violation des lieux saints de l'islam. Le fait que toutes ces forces de sécurité israéliennes rentrent en nombre sur l'esplanade, tapent les portes de la mosquée Al-Aqsa, jettent des grenades, etc. L'Iran également a condamné l'agression du régime sioniste. Et puis surtout la Jordanie qui est gardienne des lieux. Là, immédiatement, le roi a tout de suite dit sans son insatisfaction, une atteinte... une violation grave encore une fois, il a menacé de prendre des mesures. Il faut savoir que l'année dernière, en novembre, après des événements à peu près similaires, Amman avait rappelé son ambassadeur en Israël. C'est pour vous dire à quel point cette esplanade est une poudrière et à quel point les musulmans y sont évidemment très attachés. Rappelons que c'est le troisième lieu saint de l'islam.
Merci Muriel Paradon en direct de Jérusalem. Jean-Paul, bonne journée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. À Abidjan, il est 8h17, tout comme à Ouagadougou. Vous êtes nombreux à nous appeler de Ouaga, mais aussi des autres villes du Burkina Faso, notamment de Bobo-Dioulasso, pour commenter les propositions de sortie de crise formulées hier soir par la médiation ouest-africaine et notamment par le président sénégalais Macky Sall. Nous vous donnerons la parole dans une vingtaine de minutes, 33 9 693 693 70. Parmi les nombreuses réactions que nous recevons sur la page Facebook, Daouda dénonce, lui, un véritable recul pour la démocratie burkinabé. Comment peut-on faire de telles propositions, s'insurge cet auditeur. Et si aux élections, le RSP, donc le régiment de sécurité présidentielle, revendique la victoire des pro-Compaoré, que va-t-il se passer? S'interroge donc Daouda. Si comme lui, vous avez un point de vue sur ces propositions de sortie de crise, appelez-nous, rejoignez-nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Laurence Théo nous rejoint, journaliste au service France d'RFI. Bonjour Laurence.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Prégot, lui, nous appelle du Togo. Bonjour Prégot.
Bonjour, Juan Gomez, comment vous allez?
Très bien, merci de nous appeler. Vous avez des questions concernant l'autotest de dépistage du sida?
Effectivement, j'ai appris sur votre antenne qu'il a été institué en France un procédé d'autotest de VIH-sida. Alors, comment ce test fonctionne? N'est-il pas dangereux de laisser les gens découvrir seuls? C'est-à-dire sans accompagnement médical qu'ils sont séropositifs.
Alors ça, c'est effectivement une très bonne question. C'est vrai que la question de l'accompagnement est essentielle. Ne raccrochez pas, Prégo, je crois que vous avez une autre question. Laurence Théo, depuis donc la semaine dernière, ce test est désormais donc en vente libre en France, dans les pharmacies. Avant de nous dire concrètement comment il fonctionne, dites-nous déjà à quoi il ressemble.
Alors cet autotest est produit par une société française et il est commercialisé tout simplement dans une petite boîte en carton pour un prix compris entre 25 et 30 euros, parfois plus. Il est vendu dans les pharmacies et sur les site internet des officines. Cette boîte contient un kit comprenant une petite aiguille accompagnée du testeur, d'une lingette désinfectante. Il y a également une compresse et un pansement.
Alors comment ça marche ?
Le mode d'emploi est très simple. Après s'être désinfecté le bout du doigt, il faut le piquer pour prélever une goutte de sang et la placer dans un liquide révélateur. 15 minutes plus tard, c'est pas très long, le résultat s'affiche. Une barre si c'est négatif, deux barres si c'est positif. Alors attention, il faut bien dire à Prégo que ce kit est seulement valable pour le sida et ne permet pas de dépister les autres infections sexuellement transmissibles ou les hépatites virales.
Oui, ça veut dire, Laurence Théo, que ce test détecte le virus du sida ?
Non, pas exactement. En fait, il détecte la réaction de l'organisme face au virus. Autrement dit, il va révéler la présence d'anticorps luttant contre l'infection. Une petite précision, le test doit être fait au moins 3 mois après un rapport sexuel à risque. Avant ce délai, le résultat peut être ce que l'on appelle un faux négatif. Je précise aussi, Juan, que dans les autres centres de dépistage, 3 semaines après un rapport à risque, on peut faire ce test. Donc là, avec l'autotest, le temps est un petit peu plus long. Alors, en cas de rapport à risque, peu de temps avant le test, il est donc conseillé de le répéter dans les semaines qui suivent.
Ces tests sont fiables ou pas ?
Excusez-moi. Le test conçu avec des médecins français spécialisés dans la lutte contre le VIH est, comme tous les autres tests, fiable à 99%. Toutefois, en cas de résultat positif, il est indispensable de se rendre dans un centre pour confirmer la présence du virus et prendre bien sûr les dispositions nécessaires.
Ouais, et la Haute Autorité de Santé précise qu'aucun test n'est fiable à 100%, même les tests réalisés en laboratoire. Prégo nous posait une question primordiale, la question de l'accompagnement. Il nous demandait s'il n'était pas dangereux de laisser une personne découvrir seule qu'elle est séropositive.
Effectivement, la question de Prégo est tout à fait légitime. J'ai interviewé, je me suis rendue dans un centre de santé sexuelle à Paris et j'ai interviewé des utilisateurs potentiels de ces autotests. Tous m'ont parlé, Juan, de cette peur au ventre dans l'attente d'un résultat, d'une vie qui bascule, d'un séisme quand on apprend sa séropositivité. Et cela même quand on sait que l'on peut vivre longtemps aujourd'hui grâce aux nouveaux traitements. Alors, cela dit, les pharmaciens ont reçu une formation spécifique pour accompagner la vente de l'autotest. Un petit fascicule explicatif est également remis à l'acheteur. Si le résultat du test est positif, la personne doit rapidement appeler son médecin, bien sûr, ou alors SIDA Info Service, un numéro anonyme et gratuit, bien sûr, afin de ne pas rester seule face au diagnostic. Cette personne sera ensuite orientée vers une prise en charge adaptée. Alors les médecins que j'ai rencontrés également dans ce centre m'ont dit aussi que si une personne est absolument tétanisée à l'idée de connaître un résultat qui confirmerait l'infection au virus du sida, elle doit éviter l'autotest, bien sûr. Il y a en France des centres de dépistage classiques avec accompagnement de médecins. Ce dispositif ne remplace pas les outils déjà existants. Il vient renforcer l'offre de dépistage.
Ouais, Prégo, vous avez une dernière question, il me semble.
Évidemment. Étant donné que ce procédé est très cher, est-ce que le but ne peut pas être offert à son utilisation ?
Ah, il coûte cher. Effectivement, il coûte entre 25 et 30 euros. Et vous me disiez même en antenne, Laurence, avoir été à la pharmacie la plus proche de chez vous pour vous renseigner. Et la pharmacienne le vendait à 40 euros. C'est un prix excessif, exorbitant.
Bien sûr.
Surtout qu'il n'est pas remboursé en plus par la Sécurité sociale, par l'assurance maladie.
Oui, ça veut dire que les plus démunis ne pourront pas l'acheter. Le docteur Michel Ohayon, le directeur du centre de santé, précisait que le prix était un obstacle pour les étudiants. Quand on sait que l'épidémie s'est extrêmement rajeunie, dans le centre, les médecins reçoivent beaucoup d'étudiants séropositifs. Alors pourquoi cet autotest coûte aussi cher ? Alors là, je n'ai pas eu de réponse. Les médecins me disent, on ne sait pas. Par ailleurs, l'association AIDE, cette association bien bien connue, association de lutte contre le sida, travaille à ce que ce kit puisse être distribué gratuitement dans les structures associatives d'ici quelques mois.
Et on rappelle que le meilleur outil de lutte contre le sida reste le préservatif. Merci beaucoup Laurence Théo. Préo, bonne journée au Togo. 10h24 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction. 339 693 693 70. Bonjour Bonaz.
Bonjour RFI et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes au Tchad et vous avez des questions concernant la découverte d'une nouvelle espèce humaine.
Oui, bien évidemment, j'ai suivi la semaine passée sur votre chaîne la découverte par une équipe internationale d'une ancienne espèce du genre humain. Jusqu'à là, elle était inclue dans les grottes de Johannesburg, près de Johannesburg en Afrique du Sud. Monsieur Frère, j'ai quelques questions pour mieux comprendre cette actualité.
Oui.
Je veux savoir quelles sont les conditions de cette découverte.
Ah, comment les chercheurs ont découvert cette nouvelle espèce baptisée Homo naledi, c'est son nom. Cette espèce d'homme préhistorique était, comme vous le disiez, effectivement inconnue jusqu'ici. Pascal Pic est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue au Conseil de France. Alors, au Collège de France, pardon. On va pas polémiquer sur le fait de savoir s'il s'agit oui ou non d'une nouvelle espèce. On aura le temps peut-être d'y revenir dans un instant. Mais déjà, dites-nous ce qu'on a découvert en Afrique du Sud il y a quelques semaines.
Bon, soyons très clairs. Tout le monde est d'accord au moins sur le fait qu'on a un nouveau type de représentant de la lignée humaine. Ça, c'est très clair. Tout le monde au moins est d'accord là-dessus. L'autre chose, c'est qu'effectivement, l'Afrique du Sud est d'un des grands endroits où, dans le monde, on trouve des fossiles. D'ailleurs, le premier Australopithèque a été mis au jour en 1924 en Afrique du Sud. Seulement, il faut attendre 1959, donc vous voyez, ça fait plus de 30 ans, pour qu'on comprenne que nos origines sont africaines. Et là, cette fois-ci, ça bougera sur l'Afrique de l'Est. Et puis, comme notre auditeur est du Tchad, on sait que depuis 2002, un petit peu avant d'ailleurs, nous avons un des plus anciens représentants de la lignée humaine au Tchad. Donc, tout ça, ça nous dit que c'est en Afrique.
Ouais.
Maintenant, en Afrique du Sud, c'est un terrain géologique très particulier. Et là, le professeur Lieberger et son équipe de l'université de Witwatersrand a eu la bonne idée de former des spéléologues qui, pour leur plaisir, évidemment, vont se balader sous terre dans ces
grottes,
sites absolument incroyables. Donc, c'est pas avec des grottes. Hein, ce sont des une grotte, c'est quelque chose qu'on conçoit bien, avec une ouverture, on va dedans. Là, on est vraiment sur des réseaux très compliqués. Il y a des grottes, bien sûr, mais c'est pas les grottes telles qu'on les connaît en Europe ou d'une manière plus classique ailleurs. Donc on a affaire à des sous-sols extrêmement perturbés avec des tas de systèmes de circulation d'eau et quelques grottes. Donc tout ça est très complexe et évidemment on a besoin des spéléologues, ils font ça pour leur plaisir, et ce spéléologue ayant une petite formation en paléoanthropologie, donc sur l'étude ou la connaissance des hommes fossiles, sont arrivés dans un coin où là, il faut être très très mince. Pour vous dire, ils appellent ce passage le passage de Superman. Alors j'explique, hein, vous savez, Superman dans les films, il allonge le bras vers le haut pour se faire plus aérodynamique pour circuler dans l'air, mais là, en fait, ce sont des passages très étroits. Et c'est comme ça que, d'une manière très surprenante, deux spéléologues, très minces donc, ont trouvé les restes de 15 individus, hein, c'est exceptionnel, 15 individus représentés par 1500 donc ossements. Et nous sommes, alors le problème c'est qu'on n'a pas de date, mais on est autour de 2 ou 2,5 millions d'années. Et là, de trouver autant d'individus du même type au même endroit, ça permet d'être assez sûr sur le fait qu'on a un nouveau type de représentant de la lignée humaine. Quant à savoir si c'est un homme ou pas, ça c'est l'autre question.
Effectivement, tout ça mérite encore d'être analysé et expertisé. Bonaz, vous avez une autre question?
Oui, bien évidemment, j'ai encore une question. Je veux savoir à quoi ressemblait le mot naledi.
Alors, sait-on, Pascal Pic, à quoi ressemblaient ses ancêtres?
Oui, alors, Homo naledi, ben, comme je vous l'ai dit, comme on a beaucoup de squelettes, par exemple, comme notre ami, notre auditeur est au Tchad, vous savez qu'au Tchad, on a, par exemple, une mandibule qu'on appelle l'Australopithèque de la rivière des gazelles. On n'a qu'un petit bout d'os. On ne sait pas trop ce qu'il y avait derrière. Là, on a 15 individus, donc c'est extraordinaire. Donc, le portrait est le suivant. Ils font entre 1m40 et 1m50. En ce qui concerne le pied, la jambe et le bas du bassin, Il ressemble beaucoup à ce que nous sommes, nous les hommes d'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il marchait très bien et qu'il courait très bien, un bon bipède. Par contre, et ça c'est la surprise...
C'est le poids
Pardon ?
Le poids...
On est autour de 40-50 kilos, hein, voilà à peu près, même pour les plus corpulents. En ce qui concerne la cage thoracique et les épaules, eh bien c'est un peu comme les australopithèques, donc ça reste proche d'une vie dans les arbres. Et la main est assez humaine, sauf les phalanges qui sont encore incurvées. Et pour le crâne, on a un petit cerveau qui fait autour de 500 cm3, donc un peu plus du tiers d'une autre, et une face qui est encore assez costaud, mais avec une denture humaine.
En tout cas, découverte.
Des caractères hybrides.
Découverte exceptionnelle, tout le monde est d'accord pour le dire. Pascal Pic, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Reste avec nous dans un instant, le journal.